enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Grâce pour nous de louer le Seigneur, n'est-ce pas? C'est une grâce de pouvoir nous réunir dans ce lieu ce soir. J'étais réjoui de voir avec Samuel, il m'a montré un petit peu les plans déjà de l'agrandissement, déjà au sol. On peut voir ce que Dieu est en train de faire ici. Et c'est extraordinaire de voir que Dieu est à l'œuvre. Amen. Est-ce que vous êtes heureux de cet agrandissement? En tout cas, moi qui suis ici d'un œil extérieur, on peut se réjouir de voir ce que Dieu est en train de faire ici à Mulhouse et dans toute la région. Et je crois que ce lieu va vraiment être comme un phare qui brille dans la nuit. Amen. Nous avons besoin de faire briller la lumière du Seigneur là où nous sommes. Alors ce soir, voilà, le thème de ce soir, j'aimerais parler avec vous sur vivre une expérience de foi. Est-ce que ça vous intéresse? On rencontre parfois des personnes qui aimeraient vivre davantage d'expériences de foi, mais n'ont pas forcément de clés en main ou d'indices sur comment faire. Alors ce soir, je ne dis pas que je vais vous apporter une méthode magique pour vivre une expérience de foi, mais j'aimerais simplement vous donner peut-être quelques points importants et pour que vous puissiez, chacun d'entre nous puisse vivre au moins une fois dans sa vie, une expérience de foi. Nous avons besoin de vivre des expériences, amen. Nous sommes un Dieu qui est grand, qui est puissant, qui veut faire des choses avec nous, qui veut nous faire grandir et nous faire grandir dans la foi. Et pour commencer ce soir, j'aimerais vous lire une histoire qui m'a fortement interpellé, qui s'appelle « Jusqu'au bout ». Le jeudi 6 novembre 1986, Bob Hyland franchissait la ligne d'arrivée du marathon de New York. Il était le dernier des 19 413 coureurs. Pauvre Bob. Mais Hyland était le premier à avoir participé à un marathon en utilisant uniquement la force de ses bras plutôt que de ses jambes. Ah. Là, il met tout le monde d'accord, hein. Dont il avait été privé. À l'âge de 40 ans et originaire de Californie, Bob avait perdu ses deux jambes au Vietnam 17 ans plus tôt. En 1986, Hyland enregistra le record du temps le plus long de l'histoire de ce marathon. 4 jours, 2 heures, 48 minutes et 17 secondes. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait participé à ce marathon, Bob donna 3 raisons. D'abord, il voulait montrer au monde qu'il était un croyant né de nouveau. Ensuite, il désirait se soumettre à cette épreuve physique. Enfin, il voulait faire la promotion de la bonne condition physique. Hyland a déclaré « La réussite ne se manifeste pas à la ligne de départ, mais au fil de l'arrivée. Et j'ai achevé la course. » Amen. Cette histoire m'a fortement interpellé. Ça, il y a un coup de Sam dans le coin, il m'a enlevé ma feuille de message. Je sais qu'on m'a... Ah non, t'as de la chance, pardonne-moi. Non, parce qu'on m'a prévenu, on m'a dit, si Sam est passé sur l'estrade avant toi, tu vas voir. Je sais qu'il l'a déjà fait, hein. Bon. Ah ouais, c'est vite monté d'un coup. J'ai eu très chaud. J'ai déjà eu chaud ce matin, ça m'a suffi. Alors cette histoire est très interpellante. Et je vais illustrer mon premier point ce matin, ce soir, pardon. Et une chose importante à retenir. Vous savez, quand j'étais à l'école, mes professeurs me disaient toujours, prends ton cahier et ton crayon pour que tu puisses retenir. Est-ce que vous vous souvenez du message de mardi dernier? Qui a prêché mardi dernier ici dans ce lieu? Ah, Bertrand, au moins ça. Et de quoi il a parlé, Bertrand? Qui savait honnêtement qu'il avait parlé de l'amitié? Et qui était à la réunion mardi dernier? D'accord. Alors, je ne veux pas dire que j'étais un exemple à l'école, loin de là. Mais une chose est sûre dont je me souviens, c'est quand je marquais ce que le professeur me disait sur un petit bout de papier, il était plus facile de m'en retenir, de le retenir. Pourquoi? Parce qu'au moins je le mémorisais deux fois, je l'écoutais et je le marquais. Alors ce soir, j'aimerais être un petit peu scolaire avec vous, pardonnez-moi. Mais j'aimerais, si possible, que vous puissiez prendre un papier et un crayon. Pourquoi ? Parce qu'on va parler de certaines étapes où vous allez vous retrouver. À la fin du message, il va être important que vous puissiez vous situer dans ces étapes. Et que ces étapes puissent vous servir, peut-être, comme des échelons sur une échelle, vous puissiez marcher sur l'étape dont vous avez besoin. Alors, si vous avez un papier, un crayon, ou simplement si vous avez de la place sur votre Bible, ah, vous ne marquez pas sur votre Bible, vous. Pardonnez-moi. D'accord. Voilà. Alors, le premier point, ce soir, voilà, si ça veut bien marcher, c'est qu'il faut accepter des circonstances et un contexte favorable. Est-ce que vous voyez l'image qui s'affiche à l'écran ? Ce pauvre malheureux chat, entouré de tous ces bergers allemands. Et ce pauvre Bob, on pourrait dire, privé de ses deux jambes. Mais le premier point ce soir, c'est qu'il faut accepter les circonstances et le contexte que Dieu, où Dieu nous place. Pour vivre une expérience de foi, il faut accepter aussi le contexte de foi. Et pour vivre une expérience de foi, il faut accepter parfois un contexte qui n'est pas forcément le contexte qu'on voudrait pour être vraiment à l'aise. Est-ce que Bob était vraiment à l'aise quand il a parcouru ce marathon ? Non. Est-ce que ce chat-là est à l'aise ? Est-ce que vous êtes à l'aise ce soir ? À l'aise dans votre chaise ? Très bien. Mais au niveau de votre foi, où en êtes-vous ce soir ? Est-ce que vous vous contentez de vos lauriers ou des couronnes que vous avez déjà remportées ? Ah ben alors, qu'est-ce que vous me racontez ? Vous venez de dire que vous êtes bien assis tranquillement et maintenant vous dites que vous n'êtes plus dans cette position. Il faut accepter le contexte. Et il y a une histoire qui m'a interpellé par rapport à cela, c'est l'histoire de Gédéon. Et on va suivre cette histoire de Gédéon pendant quelques versets, quelques chapitres, pour illustrer un petit peu ce message. Et l'histoire de Gédéon se trouve dans Juges, chapitre 6. Et on voit que le peuple d'Israël était dans une situation très très mauvaise. Ils étaient persécutés par un peuple qui s'appelait les Madianites. Situation catastrophique. Leur vie était même en péril, en danger. Et dans cette situation, Dieu a voulu se manifester. Parce que Dieu aime ce genre de situation. Et ce soir, peut-être tu te trouves dans une situation peut-être délicate, peut-être même catastrophique. Peut-être tu te dis, mais comment je vais me sortir de là ? Pourquoi d'ailleurs Dieu m'y a mis et moi je ne mérite pas cela, mais pourtant j'y suis. Mais j'aimerais te dire que si tu as confié ta vie dans les mains de Dieu, et si ta foi est vraiment en ce Dieu vivant, Dieu ne te mettra pas dans une situation dont tu ne pourras pas t'en sortir. Mais il te met dans une situation dans laquelle tu vas devoir lui faire encore plus confiance que les autres expériences que tu as eues auparavant. Et ce soir, le premier point important, c'est qu'il faut que tu acceptes ces circonstances. Il y a trop de gens qui n'acceptent pas la situation où Dieu les place. Ils disent, mais ça, ce n'est pas pour moi. Pourquoi je mérite ça ? Dieu ne te demande pas de te justifier, il te demande d'accepter. Accepte le contexte dans lequel tu vis pour le moment. Peut-être tu es au chômage ce soir, accepte cela. Ne vis pas là-dedans, mais accepte-le comme une étape pour voir la gloire de Dieu se manifester pour qu'il te donne un travail. Accepte ces circonstances et ce contexte. Le deuxième point ce soir que j'aimerais voir avec vous, c'est l'appel de Dieu. Dans ce contexte du peuple d'Israël qui était vraiment pas favorable pour eux, Dieu a appelé quelqu'un. Dieu a suscité quelqu'un. Et vous le voyez à cette image, on voit ce jeune homme avec le téléphone, mais on ne voit pas la personne qui est à l'autre bout. J'aimerais vous dire qu'il est important de savoir et de comprendre que c'est Dieu qui vous appelle. Il y a des gens, ils pensent que Dieu les place dans des situations, mais en fait c'est eux qui sont mis tout seuls dans ces situations. Et ils disent, voilà, regarde où Dieu m'a mis. Regarde là où Dieu me place. Et ce n'est que la suite logique de mauvais choix ou des erreurs qu'ils ont fait. Mais ce soir, si tu vis conformément à ce que la parole nous dit et que tu fais confiance à Dieu, Dieu t'appellera pour te faire franchir des étapes. Et Dieu appelle Gédéon. Il vient le chercher où? Dans un pressoir à vin. Et qu'est-ce qu'il faisait là-dedans? Il faisait du pain. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait dans un pressoir à vin en train de faire du pain? Gédéon se cachait. Gédéon avait peur. Gédéon n'était pas un homme très très courageux. Il n'avait pas du tout confiance en lui-même. Il avait peur de ce peuple. Il avait peur de ces circonstances, de ce contexte-là. Il avait peur d'affronter. Et Dieu vient le voir et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Est-ce que Dieu n'aurait pas mis ses lunettes ce jour-là pour voir Gédéon véritablement où il était? Vaillant héros, et lui, il se cache où? Dans un pressoir à vin? Pour faire son petit pain en secret, pour pas que les Madianites viennent le voir et puis le déranger à ce moment-là? Faire son petit popote tranquille? Mais Dieu voit le potentiel qu'il y avait en Gédéon. J'aimerais te dire que Dieu voit le potentiel qu'il y a en toi. Même le potentiel que tu ne vois pas, que tu ne connais pas. Mais Dieu voit le potentiel que tu peux être entre ses mains. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut se servir de toi. Dieu veut te faire accomplir des exploits. Amen. Souvent nous chantons « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Mais as-tu déjà accompli un exploit avec Dieu? As-tu déjà accompli un exploit? Un exploit, c'est quoi? C'est simplement le fait de faire quelque chose dont on ne se croit pas capable de faire. Ça, c'est un exploit. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nous devons faire des exploits aujourd'hui. Amen. Donc, Dieu n'a pas vu l'état dans lequel était Gédéon. Il a vu la suite. Il a dit, toi, vaillant héros, je suis avec toi. Et au chapitre 6, verset 15, verset 14, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. » Et j'aime cette phrase que Dieu dira, « N'est-ce pas moi qui t'envoie ? » N'est-ce pas moi qui t'envoie ? D'ailleurs de dire, mais pourquoi tu te plains ? Est-ce que ce n'est pas moi, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, qui t'appelle aujourd'hui et te dit, « Vas-y, vaillant héros. » Ce soir, le Seigneur te dit, « N'est-ce pas moi qui t'envoie ? » N'est-ce pas moi qui t'appelle? N'est-ce pas en moi que tu as confié ta vie? En qui crois-tu? Je suis le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, mais le Dieu de l'exploit et le Dieu du miracle aussi. Et je veux te faire avancer, je veux te faire grandir et évoluer, et je veux te faire découvrir le potentiel que tu as. Voilà ce qu'il a dit à Gédéon. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Beaucoup sont appelés de la part de Dieu. Dieu passe beaucoup de temps au téléphone. Mais est-ce que tu oses répondre à ce téléphone? Est-ce que tu oses prendre le téléphone et dire, d'accord, j'accepte ce que tu me dis et j'y vais. Beaucoup de gens sont au téléphone mais ne parlent pas à Dieu. Parlent à leurs propres idées, à leurs propres projets, etc. Mais Dieu prend le téléphone ce soir. Il dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie, n'est-ce pas moi qui t'appelle maintenant? Va avec la force que tu as. Vas-y. J'aime cette phrase qui dit, Dieu ne cherche pas des personnes qualifiées, mais il qualifie les appelés. Peut-être tu vois ton potentiel, tu dis, mais moi je suis capable de rien. Ma vie a toujours été un échec. Regarde le contexte dans lequel je suis aujourd'hui, regarde tout. Regarde comment était Gédéon, peureux. Se cachant, peut-être tu es comme cela, tu dis, mais moi j'ose pas. Mais Dieu va te qualifier, je te l'assure. Si tu décides de répondre à son appel et de croire que c'est lui qui t'appelle et que tu en es convaincu, Dieu va te faire avancer, je t'assure. Alors ça c'était le deuxième point, l'appel de Dieu. Le troisième point, c'est la purification. Et dans la suite un petit peu de cette histoire, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit pas très bien là, c'est juste une douche sur ce petit chien, hein. Donc il avait besoin d'un petit lavage. Après s'être sali dans la boue, Et Dieu va dire à Gédéon, au verset 25, il faut que tu ailles et que tu renverses l'autel de Baal qui est à ton père et abats l'idole qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Cette étape de la purification est une étape très importante et surtout indispensable. Dieu veut que nous puissions prendre des décisions fermes par rapport au péché. Amen. La Bible nous dit qu'il faut résister au mal et il fuira loin de nous. Est-ce que vraiment nous résistons à cela? Est-ce que vraiment nous tenons ferme? Tiens ferme face au péché. Qu'est-ce que ça veut dire de tenir ferme? Est-ce que vous êtes déjà trouvé dans une situation où vous étiez à plusieurs mètres du sol? Par exemple, si je me mets là, accroché à cette barre, et que je reste, et le vide est là, et qu'il faut que je tienne ferme en attendant que l'aide arrive. Est-ce que je vais rester tranquille comme ça, relax? Peut-être m'amuser même à vouloir glisser, à faire des acrobaties? Non. Je vais tenir bon, tenir ferme. Et mes mains vont venir vraiment très très ferme, et je vais serrer le plus fort possible. Dieu te demande de tenir ferme face au péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est difficile, n'est-ce pas? Sinon, il n'y aurait pas besoin de tenir ferme, on pourrait être tranquille face au péché. Non, 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 non. Il faut tenir ferme, il faut s'accrocher à quoi? À la parole de Dieu. S'accrocher à quoi? À la personne même de Dieu. Faire confiance à Dieu. Ça va nous demander des efforts, peut-être des contraintes même parfois. Et parfois même publiquement, il va falloir faire ces choses-là. Gédéon a dû le faire. Il a dû renverser cet autel de Baal devant tout. Bon, il y est allé la nuit pour justement, parce qu'il ne voulait pas le faire devant tout le monde. Mais finalement, on a trouvé que c'était lui quand même. Alors vous voyez, Dieu l'a quand même repris là-dessus. Et parfois même publiquement, Dieu nous demandera de confesser nos péchés. Et parfois même publiquement, il va falloir résister fermement, même quand peut-être nous serons sujets aux moqueries. Mais t'es un ringard, toi. Mais pourquoi tu ne viendrais pas avec nous, là? Et toutes ces choses-là. Le regard des autres. Mais tenons ferme. La purification est un passage obligatoire. Et Gédéon a dû passer par cela. Dieu veut utiliser des personnes qui considèrent Dieu à sa juste valeur. Qui croit que Dieu est saint? Qui croit qu'il est saint ce soir? Est-ce que vous êtes saint ce soir? Mes amis, est-ce que vous êtes saint ce soir? Bien sûr! Alors prenons au sérieux cette sainteté que Dieu nous donne. Prenons au sérieux la nature même de Dieu. Ne laissons rien nous souiller, nous détacher, nous éloigner de Dieu. Mais tenons ferme. Restons accrochés à la personne de Dieu. Amen. Dieu est saint et il déteste le péché, nous savons très bien. Donc on voit que Dieu a voulu faire une œuvre de purification dans la vie de Gédéon. Et c'est ce qu'il a fait. Le quatrième point que je veux voir avec vous ce soir, c'est l'Esprit de Dieu. Et on voit ça un petit peu plus loin, si vous voulez regarder avec moi, au chapitre 6, toujours, verset 34, il est dit que Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Amen. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, pour avancer dans notre marche. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir les choses que Dieu a prévues pour nous. Le Saint-Esprit est vital. Et j'aime bien cette image, je ne sais pas si vous discernez bien au fond. C'est un sachet, vous savez, de perfusion. Je ne sais pas si on appelle ça un sachet. Je ne suis pas dans le domaine médical, je ne suis pas très, très très calé. Mais, comment on appelle ça? Une poche, voilà, une poche. Et sur cette poche, il y a marqué « vitality ». Et en anglais, ça veut dire « c'est vital ». C'est quelque chose de vital pour ta vie. Je ne sais pas si un jour, vous avez déjà eu une perfusion. Moi, un jour, ça m'est arrivé. J'étais parti pour un mariage en Côte d'Ivoire. Des amis très proches s'étaient mariés. Et donc, on les avait accompagnés avec ma femme. On était les témoins de ces mariés. Et puis, 3 mois après notre retour, voilà qu'un soir, je me mets à trembler comme jamais j'ai tremblé. Je peux dire que je suis très rarement malade. Je ne sais pas vraiment ce que c'est que d'avoir de la fièvre ou des choses comme ça. Dieu m'en préserve jusqu'à aujourd'hui, que Dieu continue. Et ce soir-là, je rentre à la maison et je grelottais. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourtant, j'avais une veste. Et puis, j'arrive et je m'effondre par terre, vraiment me tordant de douleur. Puis pour ceux qui connaissent un peu Sarah, elle n'est pas là ce soir, alors me dit mais arrête, t'as pas l'impression d'abuser un petit peu? Ah, ces hommes là qui se prennent pour je dis franchement, je me sens très très mal. Et elle, limite, elle me méprisait un petit peu. Bon, j'ai dit bon. Et je suis parti me coucher. J'ai passé une nuit atroce, atroce, atroce. Je grelottais pas, j'étais bouillant de chaleur. Et puis, on devait partir le samedi sur Paris. Et puis, on était parti. Et puis, dans le retour dans le train, dans le TGV, ah, je me souviendrai de ça. Pareil, la fièvre me retombe dessus. Et puis, je commençais à délirer dans le train. Mais délirer, mais à dire des choses, mais... La chose vraiment marrante, c'est que je voyais ma sœur et Sarah en face de moi en train d'être vraiment paniquées cette fois-ci. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a? Mais regarde, il dit n'importe quoi. Essaye de le faire taire parce que je parlais fort aussi. Il y avait des gens autour de moi et je disais vraiment des choses. Oh, c'est spirituel tout ça, tout ça. Je disais, mais... Et puis, et puis finalement, elles prennent le téléphone, elles appellent des amis. Il faut prier pour Mathieu, il va vraiment pas bien. Il faut... Et moi, je rigolais à l'intérieur de moi, mais je pouvais pas me continuer, je délirais vraiment, j'étais parti dans un truc. Et puis j'arrive aux urgences, et puis c'était le palu. 3 mois après, sacré moustique. Et puis, qu'est-ce que j'étais content quand on m'a mis cette aiguille et que j'ai senti que la fièvre partait. Qu'est-ce que j'étais content d'avoir cela. Je peux vous dire, qu'est-ce qu'on est content quand le Saint-Esprit, on sent la puissance du Saint-Esprit nous accompagner. Qu'est-ce qu'on est content quand on sent l'aide du Saint-Esprit dans notre marche avec Christ. Qu'est-ce qu'on est content quand on voit les effets du Saint-Esprit dans notre vie. Amen. Et Jésus a dit, je vous enverrai. Je vous l'enverrai parce que vous en avez besoin. Et si nous en avons besoin aujourd'hui, c'est parce que dans notre marche, à des moments précis, le Saint-Esprit veut, comme cette perfusion, veut nous mettre des injections, pardonnez-moi le terme, pour que nous puissions avancer. Des fois, nous avons besoin de ce coup de booster de la part du Saint-Esprit pour nous faire franchir certaines étapes. Bien sûr, le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais rien n'empêche que parfois, le Saint-Esprit a besoin de tomber sur nous. Le Saint-Esprit a besoin de souffler sur nous pour nous faire grandir et nous faire avancer. Amen. Donc l'étape du Saint-Esprit est importante. Jean 16, verset 12, nous dit que le Saint-Esprit nous révèle les pensées de Dieu. Les pensées de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous révèle la suite. Les idées, les pensées que Jésus a pour nous, le Saint-Esprit nous les révèle. Amen. Le Saint-Esprit est cette voix qui parfois nous parle. Le Saint-Esprit est parfois celui qui nous inspire. Le Saint-Esprit est parfois celui qui nous guide. Le Saint-Esprit... Et tout simplement, c'est cette puissance que Dieu utilise pour nous faire avancer. Ne méprisons pas le Saint-Esprit. N'ayons pas peur du Saint-Esprit, mais acceptons-le. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Acceptons-le. Vous savez, même des fois, dans l'ordre chronologique, on met Dieu, le Père, Jésus, le Fils et le Saint-Esprit en dernier. Des gens ont peur du Saint-Esprit. Pourquoi avoir peur de lui? Il est Dieu, il saura comment nous prendre, il saura quoi faire avec nous. Acceptons son œuvre. C'est lui qui va convaincre nos cœurs, c'est lui qui va travailler nos cœurs, c'est lui qui va sonder nos cœurs, qui va travailler nos pensées. Acceptons son œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Le cinquième point, c'est l'abandon, la confiance totale à Dieu. Au chapitre 7, j'ai perdu ma page. Chapitre 7, versets 1 à 8, je ne vais pas tout lire. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. » Et ensuite, on voit que Dieu va encore réduire ces 10 000 à combien? À 300. Donc, ils vont passer de 32 000 hommes à 300. Là, on est dans une situation où il faut faire confiance à Dieu. Amen. Mettons-nous dans le contexte. Gédéon s'est dit, je vais réunir toute une armée pour vaincre ces Madianites. Oh, je vais réunir des hommes de confiance, des hommes avec qui je vais. Oh, on va les écraser ces Madianites. En plus, Dieu est avec nous. Et puis Dieu, à un moment, le laisse faire. Il lui dit, vas-y, réunis tes hommes, fais-les venir. Mais moi, ce n'est pas ça exactement que je vois pour toi. Il en fait partir 22 000 et ensuite, il en restera 300. Mais Seigneur, tu es sûr qu'avec 300, contre toute cette armée-là, on va y arriver? Mais Seigneur, tu m'as enlevé peut-être mes meilleurs guerriers, les hommes les plus forts, les hommes sur qui vraiment je comptais. Mais pourquoi tu me les enlèves? La confiance totale dans le plan de Dieu. Dieu veut se glorifier. Et Dieu, parfois, va permettre d'enlever certaines sécurités que tu as dans ta vie. Certaines choses où tu t'es vraiment bien installé dessus, certains bons acquis, certaines choses bien stables, sur vraiment tu fais confiance. Peut-être sur certaines personnes, vraiment tu places ta confiance en eux, puis Dieu, tu verras que Dieu va les écarter. Puis tu verras que certains piliers que tu t'es mis, sur lesquels tu t'étais bien accroché, bah Dieu va les commencer à les faire trembler. Dis, oula, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Où tu veux me... Regarde, je tremble. Je suis complètement déstabilisé. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a peur et on fait demi-tour? On dit, ah non, le Seigneur ne veut pas ça pour moi. Il ne veut pas me faire trembler. Ça, la peur ne vient pas de Dieu. Non, ça je refuse. Ça c'est trop dur pour moi. Voilà, est-ce que même quand ça tremble, quand ça bouge, quand tout autour de nous peut parfois s'effondre, qu'est-ce que nous faisons? Confiance ou pas confiance? Abandon total ou pas abandon total? Gédéon a dû faire confiance à Dieu. Croire que Dieu, le plan de Dieu, était plus grand et meilleur. Il était le plan de réussite, plus que son plan à lui. Acceptons les plans de Dieu. Dieu veut qu'on s'attache uniquement à lui. Et les expériences que tu vas vivre et que tu vis aujourd'hui te permettront de t'attacher de plus en plus à notre Seigneur, plus qu'à tes propres forces. Et Dieu parfois utilise des manières comme ce contexte-là. Et dans les épreuves, et dans les contextes favorables, et dans ces démarches de foi, Dieu va certainement te faire trembler. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu deviennes de plus en plus solide. Que ta relation avec lui devienne de plus en plus solide. Que ta confiance en lui devienne de plus en plus inébranlable. Que tu commences à connaître véritablement et à voir que Dieu est vivant. Et que Dieu est fidèle. Et que Dieu ne te laissera jamais. Amen. Ça, c'est un point vraiment important. Alors, vous avez vu, j'ai mis deux images. J'ai mis une image de cet enfant. On dirait presque ma petite fille. Qui commence à monter les escaliers. Et qui doit aussi croire que son pied est assez solide et assez ferme pour monter la marche suivante. Et c'est incroyable comme elle le croit vite. Et elle le fait de plus en plus vite. Énorme, elle a une énorme confiance en elle, dès son plus jeune âge. Je dirais, peut-être ce soir, tu débutes dans la foi. Peut-être tu es comme ce petit enfant où la marche, je dirais, n'est pas très très haute. Mais franchis ces étapes. Fais confiance à Dieu qui va t'emmener d'étape en étape pour que tu grandisses, que tu t'affermisses. Et ensuite, peut-être tu passes à cette étape où on voit cette jeune fille s'accrocher et être dans une situation, je dirais, assez périlleuse. Mais d'étape en étape, Dieu veut nous faire grandir. Et surtout, former notre caractère à être des gens solides, des gens qui tiennent ferme. Amen. L'abandon, la confiance totale à Dieu. Le point suivant est une stratégie. Vous connaissez la stratégie que Dieu a donnée à Gédéon? Stratégie bien précise. Mais ce qui est intéressant, c'est que la stratégie arrive uniquement à ce moment-là. Vous ne trouvez pas ça étonnant? Pourquoi Dieu n'a pas donné sa stratégie tout au début quand il l'a appelé? Pourquoi Dieu n'a pas dit, je vais faire délivrer le peuple d'Israël contre les Madianites et tu utiliseras des cruches, des torches et des trompettes? Et puis ensuite, quand tu en auras pris 32 000, ben, il faudra que tu en prennes 300 000. Pourquoi Dieu n'est pas rentré dans les détails comme ça au début? Parce qu'il a voulu travailler le cœur de Gédéon. Il a voulu le faire avancer. Il a voulu lui montrer à travers ces différentes étapes que Dieu était derrière lui, que Dieu le soutenait, que c'était, entre guillemets, le business de Dieu là derrière. Et Dieu te laissera certainement parfois faire tes propres choix, prendre tes propres décisions. Mais laisse toujours la place à Dieu pour te corriger et te guider là véritablement où il faut. Mais Dieu veut donner une stratégie précise à ta vie. Et dans tes expériences et les expériences de foi, Dieu veut te donner des stratégies bien précises. Parce que Dieu est un Dieu précis et qui travaille à la perfection. Dieu n'aime pas les choses superflues. Dieu n'aime pas les choses à moitié faites. Il aime les choses précises. Amen. Quelqu'un un jour a dit, un rêve qui reste sans stratégie est une illusion. J'aime cette phrase. On a beaucoup de gens qui rêvent. Beaucoup de gens qui rêvent de devenir ci, de devenir ça, de faire ci ou de faire ça, même pour les choses de Dieu, vous savez. Il y a des gens toujours bien intentionnés. Mais quand il s'agit d'écouter la stratégie de Dieu, et quand ils voient tout ce que ça va leur coûter, et toutes les étapes qu'il va falloir passer, les gens préfèrent rester dans le rêve. Animés de beaux rêves. Mais pour que ce rêve devienne réalité, il faut accepter la stratégie de Dieu. Accepter les plans de Dieu. Que Dieu bouge les pions qu'il veut. Parce que lui connaît la finalité de ce projet. Et on verra que ce projet était très précis. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les trois corps sonnaient de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche, pas de la main droite, de la main gauche, les flambeaux. Et de la main droite, les trompettes. Pas l'inverse. Pour sonner, et ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Et c'est mon dernier point ce soir. La foi de Gédéon a été honorée. La réussite à ce projet. La réussite au plan de Dieu. Gédéon a eu foi que Dieu le conduisait dans la victoire. Est-ce que ce soir, dans ta situation où tu es, est-ce que tu crois que Dieu a véritablement un plan de sortie pour toi? Est-ce que tu crois véritablement que Dieu a une issue pour toi et une solution pour toi? Un plan où tu vas sortir victorieux de cette situation? Amen. Est-ce que tu crois fermement que là où tu es sur le plan de la victoire, sur le chemin de la victoire? La victoire appartient à Dieu. Amen. Quand nous sommes dans son plan, la victoire lui appartient. Jésus-Christ a déjà tout remporté. Il a dit, tout est accompli. J'ai tout accompli. Marchez dans la victoire. Et parfois, même, il nous faut marcher, même quand nous ne voyons pas la victoire se manifester véritablement. Mais il faut continuer à marcher. Il faut continuer à rester dans une attitude de foi. Même quand parfois ça dure longtemps. Même quand parfois les épreuves sont un peu plus longues, le contexte est un peu difficile, il faut accepter et toujours rester dans une attitude de foi et croire que Dieu nous donne la victoire. Cette attitude de foi, certainement, a plu au Seigneur. Elle a plu à Dieu. Et c'est pour ça que Gédéon, ce petit Gédéon qui se cachait, est devenu ce grand guerrier, ce vaillant héros, comme Dieu l'avait vu au départ. Est-ce que Gédéon se voyait de cette manière? Non. Et j'aime quand il dit, vous allez crier pour l'Éternel et pour Gédéon. Et il est orgueilleux celui-là. Pourquoi il faut crier son nom et pour Gédéon? Pour lui, c'était une victoire de dire, c'est au nom de l'Éternel, mais aussi parce que j'y ai mis ma contribution. Parce que aussi j'ai osé relever le défi, osé relever la tête et pas marcher la tête baissée, mais osé regarder devant et dire oui, je crois au nom de l'Éternel et parce que je mets ma foi en toi, la foi de Gédéon. Ce soir, est-ce que tu veux oser relever la tête et dire au nom de l'Éternel, mais aussi, moi je veux mettre tout mon possible pour y arriver. Ce Bob dont je vous ai parlé tout à l'heure, a mis tout son possible pour y arriver. Il n'a pas regardé les autres en disant « Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont de la chance, ceux-là ? Ils ont deux jambes pour courir. Oh, qu'est-ce que j'aimerais être comme eux ?» Non. Il s'est dit « Je vais y aller. Mon but, c'est d'arriver. Et je vais montrer que je suis chrétien. Et je vais montrer que Dieu est grand. » Alors d'aujourd'hui, je n'ai pas entendu quelqu'un qui a accompli une œuvre pareille que ce Bob. 4 jours de marathon, 4 jours sans ses jambes. Alors je ne sais pas exactement comment il l'a fait, mais il l'a fait et il est arrivé. Dernier aux yeux des hommes, mais premier aux yeux de Dieu. Peut-être tu peux dire, oui, mais regarde, les autres avancent tellement plus vite que moi. Eux, ils courent beaucoup plus vite. Eux, ils vont vraiment, c'est des sprinteurs, mais moi je suis lent, je suis... Ne regarde pas à cela. Regarde à ce que Dieu veut faire avec toi. Écoute l'appel de Dieu. Accepte ce que Dieu veut faire avec toi. Et je t'assure qu'il t'emmènera à la ligne d'arrivée. Est-ce que vous avez déjà vu le film Les chariots de feu? Non. C'est une histoire vraie. C'est l'histoire de ce Eric Liddell. C'est pas Liddell les magasins, hein, c'est Eric Liddell. Eric Liddell était un chrétien affermi et qualifié pour les Jeux Olympiques. Et puis, il courait le 100 mètres. Il était un des meilleurs au 100 mètres. Et il apprend que la course va se jouer le dimanche. Et lui, il avait toujours dit que le dimanche était le jour consacré au Seigneur et qu'il ne courrait jamais un dimanche. Et là, il était aux Jeux Olympiques. Et la course tombe le dimanche. Et il refuse cela. Et finalement, on va lui donner une deuxième chance. On va dire, ok, tu ne veux pas courir le dimanche, on va te faire courir le 400 mètres. Alors il a couru le 400 mètres. Et en plein élan, quand il était parti, il était vraiment un des premiers dans la course. Et il va faire une chute. Et il va perdre 20 mètres sur les autres. Vous imaginez, sur un 400 mètres, quand on perd déjà 20 mètres, on peut dire que c'est fini. Et il dira à ce moment-là qu'il a senti que Dieu le relevait. Et il a continué sa course. Et on voit cette image dans ce film. Bon, il y a la musique qui fait beaucoup aussi, hein, mais... Et il dira que quand il court, il sentira la satisfaction de Dieu. Et il sentira que Dieu prenait plaisir à courir avec lui. Et on voit... qu'il rattrape tous les autres coureurs et que finalement il gagne la course. C'est une histoire vraie. Mais Dieu a pris plaisir à courir avec lui. Ce soir, est-ce que Dieu prend plaisir à courir avec toi? Ou est-ce que Dieu est frustré contre toi parce qu'il te demande d'aller là et toi, tu vas là-bas? Et tu dis, oui, mais Dieu ne répond pas à mes prières. Mais il ne va pas répondre alors que tu es à côté du plan. Dieu veut prendre plaisir dans les choses qu'il veut pour nous. Dieu veut nous faire sentir sa satisfaction. Est-ce que vous avez déjà senti la satisfaction de Dieu quand vous avez fait quelque chose pour lui? C'est quelque chose d'extraordinaire, d'inexplicable, que le monde ne peut pas connaître. Seul celui qui se confie en Dieu et qui croit en Dieu et qui vit cette expérience peut vivre cela. La satisfaction de Dieu, le plaisir de Dieu. Et dans les parfois les choses simples de la vie, vous savez. Alors ce soir, c'est quelques points. Où en es-tu? Regarde ces 7 points pour ceux qui ont noté. Et j'aimerais que ce soir, tu mettes une croix là où tu te trouves. Tu dis, moi ce soir je suis ici. Je suis au premier point. Je ne veux pas accepter ces circonstances. Mais ce soir je veux décider de les accepter. Ce soir je suis au deuxième point. Je sais que Dieu m'appelle à faire ceci, mais... Je refuse cet appel parce que je sais que ça va me coûter. Mets une croix. Peut-être tu ne vas pas résoudre ce problème ce soir, mais mets une croix ce soir. Que tu vois où tu en es. Peut-être tu es au point de la purification. Tu sais que Dieu te demande de laisser des choses mauvaises, impures, ou des attitudes, ou des comportements qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et puis tu ne veux pas t'en détacher. C'est des choses qui te tiennent, qui te hantent, mais tu n'as pas envie de déposer ça au pied de la croix. Mets une croix. Et puis ainsi de suite. Mets une croix ce soir là où tu te trouves. Tu as besoin du Saint-Esprit ce soir? Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit dans cette situation? Mets une croix. Peut-être tu ne fais pas assez confiance à Dieu. Tu te confies plutôt dans tes propres forces. Mets une croix. Et je finirai avec quelques citations. Les grands accomplissements ne résultent pas de la force, mais de la persévérance. Quelqu'un qui, à raison de 3 heures par jour, marche avec vigueur, parcourra en l'espace de 7 ans une distance égale à la circonférence du globe. C'est incroyable ça. Incroyable. Si nous marchons avec le Seigneur jour après jour, nous faisons confiance, je vous assure que de grands exploits nous attendent. Bien plus grand que de faire le tour du monde à pied. Des grandes choses nous attendent. Mais marchons avec vigueur, en tenant ferme, bon, plaçant notre foi en Christ. Au jour du jugement, on ne nous demandera pas ce que nous avons lu, mais ce que nous avons fait. Dieu va t'aider à devenir tout ce que tu peux être, tout ce que tu étais originellement destiné à être. Mais il ne va jamais te permettre de réussir à devenir quelqu'un que tu n'es pas. Dieu a un plan, une destinée unique pour chacun, chacune. Dieu veut te faire vivre des expériences personnelles, des expériences de foi pour toi. Peu importe ton âge, peut-être tu es chrétien depuis 30, 40 ans, tu dis oui, mais moi j'ai déjà vécu des expériences. Dieu a plein d'expériences encore en réserve pour chacun d'entre nous. Acceptons le premier point, je pense qu'il est le point de départ, les circonstances dans lesquelles Dieu nous met. Amen. Est-ce qu'on pourrait peut-être se lever pour prier ensemble? Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps où nous pouvons encore partager ta parole. Seigneur, merci parce que c'est toi qui connais les cœurs de chacun. Moi, je ne les connais pas, mais tu connais les cœurs, les situations, les pensées, la vie de chacun. Et ce soir, je te demande d'intervenir selon leurs besoins. Tu as vu là où ils ont placé leur petite croix. Tu as vu et tu vois leur cœur sincère qui désire avancer. Seigneur, je te prie que ce soir, tu puisses intervenir. Je te prie que tu puisses montrer ta fidélité une fois de plus. Que tu puisses te révéler puissamment dans les cœurs. Et que nous puissions devenir ces personnes qui sont des ambassadeurs de Christ. Ce peuple qui relève les défis. Ce peuple qui accomplit des exploits, non pas en notre nom, mais au nom de l'Éternel. Qui accepte l'œuvre du Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je te prie pour chacune des vies ici. Jeunes, moins jeunes, vieux. Que chacun puisse vivre davantage d'expériences de foi. Je te prie que cette église aussi continue à marcher par la foi et qu'elle puisse voir davantage d'exploits de ta part. Merci encore pour ta miséricorde, pour ta patience envers nous, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu de merveille, un Dieu de grâce, et un Dieu de prodiges et de miracles, un Dieu qui prend plaisir à utiliser ses enfants. Seigneur, je te bénis et je te remercie encore, et que toute la gloire te revienne. Amen.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.